Vous écoutez l'émission Autour du Livre avec Annick sur RTVFM.
Bonsoir et bienvenue chers auditeurs et auditrices dans cette émission Autour du Livre. En ce mois d'avril, rediffusion de cette émission le mercredi 26 avril. Ce soir, un invité, Bruno Goloubiev, qui nous vient de Mérindol. Bonsoir Bruno.
Bonsoir Annick.
Alors Bruno, vous avez écrit deux livres. Un premier recueil publié en 2014, Curiosité humaine, aux éditions Mille Plumes. Avez-vous écrit d'autres livres non édités avant cela, Bruno ?
Non, c'était le premier en 2014 et donc celui que je présente aujourd'hui donc en 2016. Rien d'autre avant, en tout cas.
D'accord, donc ce soir nous allons parler tout particulièrement de ce deuxième ouvrage, Étreinte vagabonde, un livre qui est sorti, comme vous dites, en avril 2016 aux éditions 5 Sens. Alors, Étreinte vagabonde, c'est un recueil de textes tout à la fois poétiques, humoristiques, philosophiques. Je dirais aussi que l'on y trouve du bon sens, de la lucidité sur notre humanité. Quelques mots sur vous, Bruno.
Ah, qu'est-ce que je pourrais vous dire ? Ben, écoutez, j'ai 46 ans. Ça fait 2 ans que je me suis lancé dans cette écriture-là. Après avoir découvert, je dirais, l'écriture universitaire. Donc, cette envie d'écrire est venue, je dirais, dans une période un petit peu où il fallait trouver un exutoire. Et donc, je pense que j'avais besoin de me désencombrer d'un certain nombre de choses qui venaient un peu, je dirais, noircir le tableau. Donc, c'est comme ça que l'écriture est venue. Au départ, sans prétention, sans idée de faire un livre, hein, puisque c'était juste quelques pages noircies. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit, tiens, ça pourrait faire un livre. Et ça a fait un livre. Et donc, dans cette foulée-là, j'ai continué d'écrire pour en faire un second, puisque j'avais encore des choses à dire. Et voilà où j'en suis aujourd'hui. Donc, je continue d'écrire sur mon blog, où je continue d'alimenter autant que faire se peut, quelques pensées qui méritent d'être écrites et lues. Et voilà ce que je pourrais vous dire en gros sur l'écriture, d'où elle est partie. Je dirais que c'est un livre assez vert, dans le sens où on sent mes racines, qui sont quand même avoir grandi dans la nature avec un papa garde forestier, j'y attache beaucoup d'importance et je pense que ça se sent dans l'écriture. Et puis je pense qu'il y a derrière aussi une philosophie, préserver un peu notre planète. Voilà, donc c'est un livre un peu écologique sur ce plan-là, mais pas seulement. Il y a aussi éventuellement, on appelle ça, j'ai découvert ça, on appelle ça une écriture par fragments. Voilà, c'est-à-dire que on peut lire ça par n'importe quel bout, au milieu, à la fin, au début. Voilà, c'est des petits morceaux de pensée qui ne se succèdent pas forcément, voilà, mais qui peuvent éventuellement se grignoter comme ça, une fois par-ci, une fois par-là.
Alors Bruno, vous êtes enseignant, il me semble.
Alors pour l'instant, j'enseigne à la faculté de médecine, donc en tant qu'attaché temporaire d'enseignement de recherche et responsable de formation. Et donc j'enseigne à des cadres de santé, à des travailleurs sociaux et des infirmiers. Voilà, donc c'est un master 2 formation et encadrement dans le secteur sanitaire et social. Et je fais ça depuis l'année dernière. Là, encore une fois, arrive une période de transition. Donc mon contrat ça arrive à la fin du mois d'août. Et donc, on verra bien qu'est-ce qui va se passer après. Voilà, donc c'est encore une période de transition, il va falloir s'y préparer.
Il y a aussi dans cet ouvrage, dans ce livre, une très belle couverture. Comment s'est fait la rencontre avec Marie-Claude Strauss, donc qui vous a réalisé cette couverture?
Alors au départ, j'avais choisi une autre photo qui était une espèce de personnage. Comment dire, métaphysique, avec les piliers de la création à l'intérieur, donc quelque chose de très très science-fiction. Et j'ai trouvé que ça faisait trop science-fiction. Et donc du coup, j'ai retiré cette idée-là pour chercher quelque chose. Pour une fois, Internet a eu, je dirais, gain de cause. Et en cherchant sur les images, j'avais tapé, je sais plus quoi, automne, paysage d'automne, quelque chose comme ça. Et c'est comme ça que j'ai trouvé cette photo magnifique de Marie-Claude Strauss. Et donc je suis allé visiter son site. C'était cette photo-là qui convenait et pas une autre. Et donc je lui ai écrit Et puis elle a eu la gentillesse de me répondre et puis de me céder les droits de cette photo en me disant que c'était, ça faisait partie aussi d'un de ses rêves de pouvoir avoir une de ses photos publiées en livre. Donc j'en profite pour la remercier chaleureusement. J'espère qu'on aura l'occasion de se rencontrer physiquement et puis peut-être voir même de collaborer à nouveau ensemble.
Oui, peut-être pour un troisième recueil.
Pourquoi pas, sait-on jamais.
Alors Bruno, nous allons faire une introspection dans votre livre, qui s'intitule donc, je le rappelle, « Étreinte vagabonde », un recueil de textes qui contient 13 chapitres, 108 pages. Et cet ouvrage, c'est une invitation au voyage, à la rêverie, à la réflexion, à la quête de sens, et à plein d'autres choses, hein Bruno, à plein d'autres choses.
Oui, alors c'est pas évident comme ça de parler... puisque ce livre est assez, je dirais, morcelé, éclectique, avec différents chapitres qui suivent en gros mes états d'âme. Il était difficile d'écrire d'un seul tenant le livre, étant donné que je passais d'une humeur à une autre. Il y avait des changements de ton qui faisaient que ça ne pouvait pas être uniforme. Voilà, donc c'est un livre éclectique, on va dire, dans le sens où il y a des tonalités qui diffèrent. Et donc, selon l'humeur du jour, ça peut être poétique, philosophique, humoristique, cynique, retour d'expérience aussi, ou hommage à certains moments. Voilà. J'ai vraiment mis ce que j'avais envie d'y mettre en écrivant pour moi. Voilà ce que ça a donné à la fin. Un livre finalement qu'on peut lire, mais qui résonne différemment d'une personne à l'autre. Certaines personnes... ont des passages préférés qui diffèrent d'une personne à l'autre. Voilà. Donc c'est jamais la même chose. Et ça varie en fonction du temps aussi et du moment de lecture, de l'humeur. Oui. Voilà ce que je pourrais en dire.
Alors avant de commencer avec ce premier chapitre, Confidence entre amis, nous allons écouter La joie de vivre de Jacques Higelin, place à la musique.
Bien parti faire le tour du monde avec toi, dévorer les continents, balayer les frontières, parcourir les états de grâce de la planète entière, découvrir les mille façons de se jeter dans les bras de la joie de vivre. Vivre libre avec toi. On est tous des vers de terre, amoureux d'une star, des bâtards et des mutants qui croient au Père Noël et qui chantent et dansent sur le cratère d'un volcan, cracher ses temps de lave et de soleil, et la joie de vivre. Qui vibre sous mes pas la joie de vivre m'inspire. Je serais bien parti faire le tour du monde avec toi.
La joie de vivre, est-ce qu'elle vous inspire aussi, Bruno Golubieff ?
Eh bien, il faut se battre, hein. Il faut se battre pour la maintenir, pour faire qu'elle continue d'exister, à mon avis, hein. Et puis, et c'est un peu quelque part, en tout cas dans les retours que j'ai eus sur mes premiers lecteurs, c'est cette idée-là que c'est un livre qui ne fait pas de concessions par rapport aux faux-semblants. C'est un livre de désillusion, mais avec toujours cet espoir-là. Et c'est dans ce sens-là que je cherche à préserver cette joie de vivre avant tout.
Nous allons commencer, Bruno, à découvrir votre livre avec ce premier chapitre qui s'intitule « Confidence entre amis ». Donc, c'est l'histoire de la Lune qui réveille la Terre après un long sommeil.
Réveille-toi, réveille-toi.
Qu'est-ce que c'est ? Ah, c'est toi ? Dis-moi, j'ai dormi longtemps ?
Eh bien, tu as fait une petite sieste de quelques milliers d'années. Pas de quoi en faire une éclipse.
Figure-toi que j'ai fait un horrible cauchemar. J'ai rêvé que j'avais été colonisé par des milliards de petites créatures qui s'affairaient dans tous les coins de mon globe pour me prendre mes richesses naturelles et mettre ma vie en danger.
Quelle horreur ! J'en frémis d'avance. Et ces créatures étaient-elles douées d'intelligence ?
À première vue, oui. Elles étaient capables d'inventer, de construire de grandes choses. Mais pour une raison que j'ignore, elles passaient le plus clair de leur temps à se quereller, se détruire et me malmener en me consumant.
Et alors, que s'est-il passé ?
À vrai dire, je ne m'en souviens plus très bien. Mais en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, je crois que ma température a grimpé. L'air est devenu irrespirable, mes ressources se sont épuisées, et peu à peu, les lumières ont faibli. Les voix se sont tues. Enfin, les créatures ont disparu de ma surface.
Quelle histoire !
Ah oui, je ne connais pas de planète apte à supporter un tel châtiment. Ouf, heureusement, c'était juste un mauvais rêve.
Oui, c'est vrai. Mais quand même, fais attention à toi, on ne sait jamais.
Que vous inspire cette humanité d'aujourd'hui, Bruno, à travers déjà cette première réflexion dans ce premier chapitre ?
Eh bien, au jour d'aujourd'hui, j'ai du mal quand même à être optimiste. J'ai un petit peu de mal. Donc c'est aussi un petit peu pour ça que le désir d'écrire est venu. J'ai un peu l'impression quelque part qu'on marche sur la tête, voilà. C'est un peu pour ça que j'avais besoin en tout cas de donner à lire certaines choses qui me paraissent précieuses à préserver par rapport à notre planète. Mmh. Voilà, j'ai l'impression que on va trop vite. On va très très vite, on ne prend pas le temps de se poser, pas le temps d'échanger, pas le temps de s'écouter. Les choses vont tellement vite que finalement, j'ai un peu l'impression qu'on passe à côté de nos vies sans qu'on s'en aperçoive. Voilà. C'est un peu ça que ça me donne comme ça, comme idée à brûle-pourpoint.
Alors dans le deuxième chapitre, vous racontez vos états d'âme. Votre relation à l'écriture, par exemple. Alors, je vais vous citer. Quelquefois, le désir d'écrire me prend. Je l'explique difficilement. Ce n'est pas moi qui le dicte. Il se sert de moi pour parler à d'autres. Je n'en suis que l'instrument. Malgré cela, je ne suis pas toujours sûre d'être à même de recevoir cet élan. Si je me crispe, si je réfléchis à ce qui pourrait être digne, je me sens alors vide d'exprimer quoi que ce soit. Il me faut oublier le monde et ceux qui le peuplent. Il faut me convaincre qu'il n'existe pas, qu'il est une fiction, tout en me persuadant que j'en suis le dernier représentant. C'est alors que l'écriture et moi pouvons dialoguer pour ne faire qu'un. C'est tout de même une étrange alchimie. L'écriture, mais aussi toute création artistique, s'effectue en autarcie. C'est une solitude sublimée qui ne s'encombre pas de la morale et de ses blâmes. Donc vous parlez dans ce chapitre de rencontres inattendues, de fraternité, de devoirs de mémoire, d'indifférence. Vous vagabondez dans les rêveries d'un monde meilleur. Et dans ce deuxième chapitre aussi, il y a votre regard sur le monde. Vous écrivez aussi, De nos jours, qui cueille encore des fleurs, à part l'enfant et le poète? Ce monde est si pressé. Alors Bruno, je m'adresse à vous. Croyez-vous vraiment qu'il ne reste plus que l'enfant et le poète pour s'arrêter cueillir des fleurs?
Non, fort heureusement. Il y a encore quelques moments de félicité ou quelques instants où la providence peut s'accomplir. Non, je pense que c'est encore ces figures-là emblématiques qui, pour moi, ont, je dirais, la primeur de prendre le temps. Mais globalement, c'est très très difficile. Voilà, ça demande un effort. Hein. C'est-à-dire que c'est ce que j'avais écrit à un moment donné. Pour se tenir en retrait, il faut y mettre du sien. Ce qui peut sembler contradictoire. Mais j'y crois fermement. Hein. Se mettre en retrait, ça demande un effort pour pouvoir ne pas, je dirais, se retrouver au centre de la mêlée sans se voir, je dirais presque. Voilà, cette histoire de réflexivité qui est importante, hein, de regard sur soi, pour se dire qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'ai envie de devenir. Alors, il y a cette idée-là, plutôt que d'être un petit peu comme un automate, un peu lobotomisé, pris dans la routine du quotidien, etc. Voilà, c'est cette idée-là. Mais il faut se battre pour ça.
Alors, vous dites aussi une phrase qui est quand même forte. « Par moments, je voudrais tuer ma sensibilité. » Cela vous arrive-t-il de penser que vous n'êtes pas de ce monde ?
Par moment, oui. Oui, par moment, je me pose certaines questions là-dessus. Pas sur ma sexualité, mais en tout cas sur mon origine planétaire. Oui, la sensibilité, il y a l'hypersensibilité, c'est pas forcément un cadeau. Peut-être l'écriture vient-elle, je dirais, se saisir de cette sensibilité pour en faire quelque chose. Mais la plupart du temps, c'est pas quelque chose qui, en dehors du milieu artistique, hein, aide beaucoup les gens à s'accomplir. Donc là, quelque part, c'est pas une revanche, mais en tout cas, c'est une autre façon de vivre cette sensibilité-là et pour une fois, de ne pas la subir, mais en tout cas de m'en saisir, d'être auteur de cette sensibilité-là, pour pouvoir, parce que l'idée c'est quand même de partager, de donner à partager, hein. Une sensibilité seule dans son coin, ça ne sert pas à grand chose, en tout cas c'est de donner à entendre et à lire, et puis partager pour aussi se relier avec les gens, hein. C'est un travail, je dirais, de solitaire au départ, mais quand même l'idée, elle est aussi de renouer avec autrui.
Partager, oui. Oui, nous allons faire une pause avec un texte magnifique de Arthur H, lu par Arthur H et Jean-Louis Trintignant. Alors ça commence comme ça, c'est deux hommes qui s'allongent sur l'herbe, ils vont faire une rencontre qui va les transformer. Place à la musique, le vertige du printemps ou l'ivresse des routeurs.
Nous sommes partis dans la forêt, là-haut, où ça grimpe.
Guidés dans un sentier de lumière, par les oiseaux et par le vent.
On a découvert une clairière, à flanc de colline, face au soleil.
On s'est allongé dans l'herbe, on a fermé les yeux, mais juste avant de s'endormir, elles sont apparues.
Des femmes.
Dansantes.
Blanches. Des étincelles.
Vives.
Nombreuses.
Un enchantement manifeste. Un délire certain.
Je respirais l'ombre de leur parfum. Je ne pouvais pas les toucher.
On ne pouvait pas non plus leur faire l'amour. Même si on en avait très envie.
On les regardait tournoyer autour de nous. On avait comme perdu la raison.
Pourtant, on n'avait rien bu.
Peut-être l'ivresse des hauteurs.
Le vertige du printemps.
« savais que beaucoup de femmes ont une âme de guérisseuse.
Elles ont posé les mains sur nous. On a tout de suite senti une chaleur se répandre dans tout le corps.
Un courant d'énergie pure agissait à l'intérieur.
Ce qui était tordu se redressait.
Ce qui était obscurci s'éclaircissait.
Ce qui était cadenassé se déverrouillait.
Après, tout a changé. On était vif,
léger,
ouvert,
lumineux. Alors elles ont commencé à nous parler. C'était en quelque sorte toutes les femmes qu'on avait aimées.
Mère, fille, amante, légitime, illégitime, sœur, amie, grand-mère, arrière-grand-mère.
C'était l'heure des secrets, des solitudes, des abandons.
Regret, absence, trahison. Mais aussi des joies, des fous rires.
Des extases et de l'amour absolu.
Après cette confession étrange, le silence nous a pris. On était abasourdis, détruits, mais aussi soulagés. Neufs,
vivants,
solides,
limpides.
C'était l'heure de partir. La nuit tombe vite. Et on avait un peu de marche.
On a embrassé virtuellement toutes nos femmes merveilleuses.
L'atmosphère était saturée de plaisir.
Elles ont virevolté une dernière fois autour de nous. Et elles ont disparu.
On est rentré d'un bon pas. Avec cette joie féroce dans le ventre.
Une envie de tout dévorer.
Fallait pas nous chercher. Arrivés au village, les gens nous ont souri.
Ça leur faisait du bien de voir deux gars redescendre de la montagne complètement illuminés. On s'est regardés. On a rigolé doucement.
Et sans dire un mot.
On est parti chacun de notre côté.
Il y avait tout à faire, à rêver, à construire.
Mais maintenant c'était plus facile. Elles étaient là, avec nous.
Une belle rencontre pour ces deux hommes. Ils savaient qu'il y avait tout à faire, à construire, mais ils savaient aussi qu'ils n'étaient plus seuls. Alors nous revenons vers votre livre, Bruno Gouloubieff. Donc dans le chapitre 3 de votre livre « Étreinte vagabonde », nous y trouvons de nombreuses phrases philosophiques. Est-ce que vous en avez quelques-unes qui vous animent plus que d'autres ?
Alors philosophique, peut-être pas forcément philosophique, hein, des fois c'est cynique. Mmh. Ce que je peux vous dire, parce que c'est toujours pareil, hein, il n'y en a jamais qui viennent au moment où on les demande. Hein, mmh. Il y en a certaines comme l'indifférence et l'insulte la plus civilisée, mmh. Voilà, qui me paraît relativement lucide ou plus cynique. On a toujours besoin d'un plus médiocre que soi. Mmh. Voilà, ce genre de choses-là. Mmh. Enfin voilà, ce sont des pensées. Mais alors, ce qu'il faut peut-être ajouter, c'est qu'elles ne sont pas tombées du ciel. Hein. Mmh. J'ai beaucoup lu et apprécié les auteurs comme Oscar Wilde, La Rochefoucauld, Cioran, Yeats du côté de la poésie, voilà, Flaubert, Rimbaud. Voilà. C'est à force, voilà, c'est quand même des gens qui m'ont, je pense, en tout cas pour les aphorismes, Oscar Wilde, c'est sûr que et Cioran m'ont quelque part contaminé à leur cynisme.
Alors Bruno, nous allons continuer avec le chapitre 4. Alors là, c'est vous nous parlez d'un monde pathétique. Alors, on va voir l'homme canon, l'homme objet, l'homme ambition, l'homme honnête, l'homme nomade, l'homme politique, l'homme sexe, l'homme cynique, l'homme poète, l'homme joueur. Est-ce qu'ils sont si différents les uns des autres ?
Je ne sais pas. Ce que je me dis, c'est qu'on a tous différentes facettes, mais on en explore certaines et pas d'autres. Et on a tous tendance à, je dirais, à aller vers une exacerbation d'une des facettes. Mmh. Et c'était dans ce sens-là, quand je dis l'homme canon, l'homme sexe, l'homme poète. C'est difficile d'avoir une vie plurielle. Et donc on a tous tendance à privilégier une ou deux facettes, mais je trouve que, enfin moi qui suis assez pour l'éclectisme, je trouve que c'est ça la richesse, c'est cette pluralité-là, pas se limiter à une chose ou deux, quoi.
Alors vous parlez aussi dans ce chapitre d'une époque où les gens affichaient leur folie. Alors ça m'a quand même pas mal interpellée. Il m'est venu à l'esprit un personnage comme Fabrice Luchini. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il a ce grain de folie en lui ? Est-ce que c'est de cette folie-là dont vous parlez ?
Alors j'adore Luchini, hein, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Et puis c'est vrai qu'il faisait le one-man show sur les émissions avec toutes les invitations qu'il avait. Mais du coup, on se posait la question de savoir s'il surjouait pas son personnage. Hein. Mm. En tout cas, moi, c'est la question que je me posais en me disant mais jusqu'où il va aller pour s'enflammer pour un truc qui casse pas trois pattes à un canard, quoi. Donc, c'est ça qui est drôle, finalement. Mm. C'est la démesure. Maintenant, la référence sur cette idée-là de folie affichée des années 80, c'est un petit peu de la nostalgie, quelque part. Parce que je trouve que dans les années 80, où il y avait un petit peu cette décontraction vestimentaire, capillaire, où les gens avaient des coupes de cheveux pas possibles, des vêtements pas possibles, on était beaucoup plus décontractés, y compris à la télévision, où on pouvait se permettre plein de choses, voilà. Et les gens n'étaient pas moins talentueux que maintenant, où d'accord. Maintenant c'est plus aseptisé et qu'il n'y a rien qui doit dépasser, il n'y a pas un cheveu qui doit dépasser. Et du coup, voilà, c'est ce que je dis, c'est qu'on a mis à l'intérieur tout ce qui était à l'extérieur. Voilà, ces fameux travers, ils sont à l'intérieur maintenant.
Bruno, nous allons faire une pause musicale avec Le Destin du Voyageur, interprété par Arthur H. et Jacques Higelin.
Regarde comme je vis, regarde comme je suis, vois mes enfants rire et courir. J'ai tant voyagé, aimé me perdre, vu tant de pays, tant de femmes. Ma porte est ouverte, la nuit est si froide. Viens près de moi, viens t'apaiser. Je cherche la lumière, j'aime sa chaleur. Merci mon gars, mais je sens que la route m'appelle, c'est le test.
gens qui s'aiment se séparent souvent. Il faut du temps pour se retrouver.
C'est l'émission Autour du Livre avec Annick sur RTVFM.
Donc dans les paroles de cette chanson, « Prends soin de toi, je suis toujours là, le voyage est court, va le plus loin possible, c'est le destin du voyageur. » Donc moi j'ai trouvé que ces phrases correspondaient bien au contenu du chapitre 6 de votre livre « Étreinte vagabonde » où là vous parlez de retraite éclairée, honorer des rendez-vous avec soi, c'est bien prendre soin de soi.
Oui, oui, oui. Mmh. Et puis, il y a aussi cette idée que le temps passe vite et passe vraiment trop, trop vite, quoi. Et j'ai l'impression que plus on avance en âge, plus ça va vite. Mmh. Et donc, il y a des rendez-vous à pas manquer. Le premier, c'est avec soi-même. Donc, oui, effectivement, je pense, même si c'est difficile, mais qu'il y a des moments où il faut essayer de se retrouver face à soi-même et se poser pour pouvoir, je dirais, entrer en communion peut-être, ou en tout cas avoir l'impression de peut-être faire le bilan, ou de faire le point, ou de se projeter sur la suite, qu'est-ce qu'on a envie de faire, qu'est-ce que... Voilà. Mmh. Moi, j'ai peut-être quelque chose qui me tient à cœur dans cette histoire-là, c'est cette vigilance qui est un peu un souci aussi de me dire que voilà, le temps passe vite et que la vie va s'arrêter. On n'a pas de seconde chance, en tout cas moi je le vois comme ça, et qu'il faut pas se rater. Mmh. Voilà. Et donc autant essayer de faire quelque chose de beau, de se faire des cadeaux, même si la vie elle n'en fait pas, en tout cas pour pouvoir une fois vieux pouvoir se retourner
sans regret,
sans honte sur notre parcours. C'est ça l'idée, tout en sachant qu'on sait pas quand est-ce qu'on va se retirer, ce qui est d'autant plus qui peut être inquiétant, ou en tout cas, c'est un certain suspense.
Alors justement, est-ce que vous, c'est plutôt des rendez-vous avec vous, par exemple, quand vous écrivez, est-ce que c'est un rendez-vous avec vous ?
Oui, c'est un des principaux rendez-vous avec moi-même, même si j'ai l'impression que je ne parle pas qu'à moi-même, hein. Je parle... Enfin, il y a quelque chose d'un peu d'universel, il me semble, hein, à ce niveau-là, où j'ai l'impression de parler de la vie en général, du genre humain, dans ses relations, dans ses façons d'être, dans ses travers, dont je fais partie. Hein, donc c'est pour le meilleur et pour le pire, en tout cas. Mais c'est un retour à soi en même temps, où on revient sur ses origines. Voilà, je trouve que c'est une façon de revisiter son histoire, de ne pas en avoir honte. Et de se dire, voilà, c'est intéressant ça, quelque part, de se dire, tiens, voilà d'où je viens, et voilà ce que j'en ressors. Peut-être 20 ans après, par l'écriture, mais voilà ce que j'en ressors. Moi, je l'ai vécu comme ça, hein, quand je parle de mes racines, ou du travail physique que je faisais quand j'avais 20 ans dans le bois. Aujourd'hui, j'en ressors quelque chose de valeur.
Une richesse.
Une richesse, alors que à l'époque, c'était plutôt une corvée. Hein.
Comme quoi, à chaque âge, les points de vue sont différents aussi.
Oui.
Hein,
oui.
On a des regards différents.
Mais c'est toute la question du bonheur là, dont on parle. Hein. On ne sait jamais à l'instant T. Hein. Il y a toujours un délai. Hein. Un délai. Et puis, il faut pas rater la. Sinon, il y a péremption. Hein.
Le rendez-vous.
Donc.
Le chapitre 7, ce sont des instants poétiques que vous nous donnez donc à découvrir. Et pour cela, je vais lire deux courts extraits de ces textes en musique.
Il existe un lieu où le ciel est souvent radieux. L'air y est léger et parfumé. La lumière est remarquable, particulière. Elle est à la fois douce et intense. Elle dessine le contour des collines et des montagnes avec majesté. Les peintres ne s'y sont pas trompés. Le soleil y est un personnage haut en couleur. La pluie s'invite quelquefois, mais ne fait toujours que passer. Les hivers y sont plutôt doux et le froid ne dure jamais. Les étés y sont chauds et l'ancien temps chantait à 25 degrés. Les gens ont le teint hâlé. Ils ne vivent pas enfermés et prennent le temps de discuter avec leur accent ensoleillé. On y entend des clochers, on y voit des terrasses de cafés bondées qui vous regardent passer. De près ou de loin, on peut admirer les champs d'oliviers qui parsèment le paysage et contribuent à en parfaire sa beauté. La mer n'est jamais loin et l'on peut facilement s'y baigner. C'est aussi le refuge des retraités qui donne à leur vie un avant-goût de paradis. C'est un lieu auquel je suis attachée, et aussi longtemps que vie me sera prêtée, c'est dans cette Provence que je tiens à résider. Imaginez l'immense plaisir à vous retrouver au volant de votre véhicule lorsque vous avez choisi l'endroit où vous rendre. Dans votre autoradio, on peut entendre une chanson que vous affectionnez. Vous n'hésitez pas à la repasser en boucle, car vous êtes seul, libre de vos obsessions. Elle fait perdurer cet état d'esprit d'été et vous fait goûter à cette liberté si rarement éprouvée. Vous circulez sur une route désertée. À votre droite, la mer vous regarde passer, envieuse de votre gracieuse légèreté. Vous roulez en décapotable car la température est aussi de votre côté. Un air léger caresse votre visage sous vos lunettes teintées. Rien ne vous oblige à vous arrêter. La musique vous transporte et empêche tout désagrément du passé. Aujourd'hui, le soleil vous a choisi pour s'illuminer. Devant vous, ce n'est pas seulement la route que vous voyez, mais le symbole d'un bien-être prêté par l'espoir d'un avenir où vous pourrez, au même titre que cette échappée routière, naviguer dans la vie comme un être unique qui mérite d'être choyé. Cela, chacun l'a toujours souhaité.
Vous écoutez l'émission Autour du Livre avec Annick sur RTVFM.
Alors nous continuons donc cette émission toujours en compagnie de Bruno Goloubiev pour son livre « Étreinte vagabonde » aux éditions 5 Sens. Alors les éditions 5 Sens, pourquoi cette maison d'édition ?
C'est un joyeux concours de circonstances, hein, en passant par Internet une fois de plus. Et puis un internaute m'a recommandé cette maison d'édition et il ne s'est pas trompé. J'ai pu travailler dans les conditions idéales avec Chloé et Annelise Whitware, donc qui sont deux sœurs qui ont fondé cette maison d'édition il y a 2 ans, je crois. Et donc ça s'est admirablement passé parce que toutes mes suggestions ont été accueillies à bras ouverts. Elles ont fait un travail remarquable au niveau de l'impression. Il n'y a vraiment rien à dire, quoi. C'est un beau produit. Alors moi qui ai déjà du mal à me mettre en avant, le livre au moins m'aide à ça. J'ai pas honte du produit parce que voilà, il a rien à dire. Et puis la photo de Marie-Claude Strauss est exceptionnelle. Donc, au moins, j'ai déjà ça qui m'aide et qui fait que voilà, je suis capable d'en parler un peu mieux. Donc, c'est une belle rencontre et j'espère continuer à travailler avec cette maison d'édition là, parce que je trouve que c'est sympa d'être là depuis le début, à l'origine. Et de pas arriver une fois que tout est fait, hein. C'est, si je peux être enfin en position aussi de les aider par rapport à ce que à une forme de reconnaissance, ça sera avec plaisir en tout cas, voilà.
Alors je tourne la page et je suis au chapitre 8 qui a pour titre hommage. Et là, nous partons à l'aventure avec vous pour tous ces hommages que vous rendez, Bruno, à votre chat, à une chanteuse. Une belle déclaration d'amour à votre dulcinée aussi. Nous découvrons donc dans ce chapitre de nombreux textes empreints d'une belle profondeur, du dépouillement, de la recherche d'authenticité, de vérité.
C'est peut-être le chapitre le plus intime. C'est pour ça que celui-là, c'est plus facile de le lire que d'en parler. Parce qu'il y a des choses qui sont tellement intimes que ce serait presque déplacé de les lire comme à haute voix, sachant que c'est vraiment réservé individuellement à des gens qui m'ont inspiré pour ce moment-là. Et je pense qu'il y en aura d'autres.
Alors Bruno, avant de passer au chapitre 9, nous allons faire une petite pause musicale là, avec Jean-Louis Murat, un auteur que vous aimez bien, auteur, compositeur, interprète. Alors, je vais dire un petit mot sur Jean-Louis Murat. Alors, il est aussi acteur français. Il est né en 1952 à Chamalières, dans le Puy-de-Dôme. Son premier disque est sorti en 1981. Alors, le titre de son premier album, c'est « Suicidez-vous, le peuple est mort ». Donc, il va composer tous les ans, tous les deux ans. Il sort un nouvel album, de nouveaux textes, quoi. Et c'est le single « Regret », un duo avec Mylène Farmer, qui va le faire connaître auprès d'un plus large public. Voilà, et ça, c'est enfin 1991. En mars 2013, il sort un album qui s'appelle « Toboggan ». En octobre 2014, un autre album, Babel, un succès qui a été vendu plus de 20 000 exemplaires. Février 2016, son nouveau single, French Links, est là. Pour aujourd'hui, pour cette émission, il va nous interpréter la chanson qui s'intitule Aimer, une très très belle chanson, l'album Dolores.
Troubler la onde, choyer l'âme vagabonde qui sait montrer le chemin. Il faut aimer que le corps vivant ce monde vive heureux chaque seconde. Comme un amant ruisselant, as-tu aimé chanter? Aime-moi. As-tu aimé que se referment ses bras? As-tu aimé poser ton cœur à l'intérieur d'un être heureux? As-tu aimé t'enfuir loin parfois? As-tu aimé retrouver tes pas? Oui, saurais-tu souffrir à l'intérieur d'un être heureux? Il faut aimer prendre le train bleu des songes, contourner la grande éponge. Éviter le malin. Il faut aimer attiser les feux de joie qu'allumera pour toi le stratège bienveillant. Au cœur des gens heureux. As-tu aimé plier ta nature féconde, aimer que se trouble l'onde au plongeon du requin blanc. Nu sous les lambris du monde, la cariatide blonde, le navire éperonné. Dis, as-tu aimé chanter? Aime-moi, as-tu aimé que se referment ses bras? As-tu aimé poser ton cœur à l'intérieur d'un être heureux? As-tu aimé en morte saison semer la graine fleur qui pousse au cœur des gens heureux?
Quand j'écoute cette chanson, choyez l'âme vagabonde qui s'est montré le chemin. Il faut aimer prendre le train bleu des songes. As-tu aimé poser ton cœur à l'intérieur d'un être heureux? As-tu aimé en morte saison semer la graine fleur qui pousse au cœur des gens heureux? Ça, c'est de la poésie, ça.
C'est très très beau, effectivement. Mmh. J'aurais pas dit mieux.
Alors, vous écoutez les chansons de Jean-Louis Murat depuis longtemps, Bruno ?
Oui. C'est-à-dire que le titre Regret, je connaissais, mais je crois qu'il avait fait un tube encore avant. Mais ce que j'ai surtout découvert de lui, bon, le côté rebelle, il a toujours été assez affiché. Mais ce qui me paraît de plus en plus évident au fur des derniers albums, c'est le texte, quoi, la qualité des textes. Ça devient costaud, quoi. Et voilà, donc j'ai d'abord entendu il y a très très longtemps qu'il disait qu'il écrivait après la musique. Il faisait déjà la musique et il écrivait par-dessus la musique. Et ça m'avait étonné parce que je suis plus sûr du tout qu'il fasse la même chose maintenant, mais en tout cas ça m'avait vraiment étonné, comme si finalement les paroles étaient presque secondaires, alors que quand on écoute ses derniers albums, on se rend compte que voilà, il y a beaucoup de travail.
Nous continuons donc à vous découvrir, Bruno, au travers de votre livre, Étreinte vagabonde. Projet nomade. Alors, ces projets, est-ce que c'est de votre vécu que vous nous parlez, là, Bruno ?
Sans doute en partie. L'avenir est toujours plus ouvert, plus compliqué que le présent. Il y a toujours des possibles. Mmh. Et sur ces possibles, il y en a peut-être un qui va advenir, mais on ne peut pas tous les faire advenir, et c'est bien difficile de choisir. C'est pour ça que c'est du nomadisme, quelque part. C'est que j'aime bien cette idée de sérendipité. La sérendipité, c'est l'idée qu'on trouve quelque chose qu'on n'avait pas cherché, voyez. Et c'est du nomadisme, quelque part. Et dans la vie, il y a une part de nomadisme, et je pense qu'elle est précieuse, cette part de nomadisme. Je n'envie pas du tout les gens qui se mettent sur des rails. qui compte tout. Le vendredi après-midi, je range mes chaussettes. Le samedi matin, je vais faire les courses.
C'est pas d'improvisation.
C'est une horreur pour moi, ça. Donc, le nomadisme, j'y vois quelque chose de noble. Pour le coup, c'est être capable de jouer avec, je dirais, une esthétique de l'inconfort. C'est un peu le trapéziste, vous voyez. C'est un peu cette figure-là. Et accueillir l'imprévu.
L'avant-dernier chapitre de ce livre, Étreinte vagabonde. Alors, comme vous l'écrivez au commencement de ce chapitre, nous avons tous une histoire à raconter. Est-ce aussi là votre histoire, Bruno, que vous nous racontez à travers ce recueil de textes ?
Oui, d'une certaine manière, c'est mon histoire, mais c'est aussi l'histoire des gens en général, l'histoire des gens, mais qui ignorent que c'est leur histoire. Ce qui est terrible dans ce passage-là que vous avez commencé à lire, c'est la suite. C'est qu'on a tous une histoire à raconter, mais tout le monde s'en fiche. Et donc, c'est elle qui se raconte à travers nous. C'est en gros ça que je dis. C'est-à-dire qu'on a tous un tel besoin de reconnaissance, montrer à quel point on est formidable, on est tous exceptionnels, que ça nous agit. Ça finit par nous agir dans nos comportements. Si on ne s'arrête pas pour se dire « Attends, qu'est-ce que tu es en train de faire là ? Tu es en train de te mettre en valeur ou tu es en train de parler de toi ?» Voilà. Si on ne s'arrête pas à un moment donné, on finit par ne plus s'en rendre compte. Et ça devient automatique, hein, parler de soi. Hein, on y prend vite goût, hein, surtout quand tu es à un auditoire. Donc oui, on a tous une histoire à raconter, mais ça ne veut pas dire que tout le monde y prête attention.
Oui, là, on voit que c'est un chapitre où vous cherchez des réponses, mais vous en trouvez aussi. Alors, je vous cite. « Azur, le temps se fige en moi, douce contemplation de ce qui échappe au monde. Il ne m'appartient pas, et pourtant, il me parle de moi. Il me demande ce que je fais ici. Suis-je une erreur de la nature ? L'homme a-t-il une importance en dehors de lui-même ? »
Oui. C'est le début d'un texte sur justement la... C'est une forme de méditation quelque part, hein, où je relis après avec cette histoire de flamme. Je crois qu'à un moment donné, je relis avec cette histoire de flamme sur la confiance en soi, sur l'espoir et la confiance en soi. C'est-à-dire que je compare la vie à une petite flamme quelque part. Et si elle est trop faible et qu'elle risque de s'éteindre, on sombre dans le désespoir. Et si par contre elle devient trop puissante, on tombe dans les travers du pouvoir et on finit par ne plus se voir. Et qu'il faut justement essayer de creuser notre sillon tout en préservant cette flamme sans qu'elle nous consume ou sans qu'elle s'éteigne. Voilà, il y a toujours une espèce d'articulation des contraires.
La garder équilibrée en nous.
Oui, oui.
Voilà. Ni trop, ni pas assez.
C'est cette vigilance-là, il me semble, en tout cas.
Alors, dernier chapitre de ce livre, Vie intérieure. Donc là, on a un petit peu de tristesse, du réalisme aussi, de la lucidité, mais aussi un regard neuf à travers vos yeux, Bruno, dans ce vagabondage fabuleux. Car vous nous montrez que par certaines prises de conscience, chacun de nous peut changer le monde, peut le rendre plus joyeux, plus serein, plus responsable, mais que tout commence par une prise de conscience importante. Alors là, on ne va pas dévoiler, on va laisser découvrir les lecteurs donc de ce message, on va dire, moi j'appelle ça un message d'espoir. Alors, comment vous est venu ce titre « Étreinte vagabonde » ? Comment est apparu ce titre pour vous ?
Ben, c'est toujours cette idée de contradiction, hein. Je crois qu'il y a ces deux termes qui sont contradictoires. Peut-être préciser que je vois l'être humain comme quelqu'un de contradictoire, hein, qui est tissé de contradictions et qui fait tout ce qu'il peut pour que ça ne se voit pas. Mais bon, il y a pas mal de théories en psychanalyse ou dans d'autres qui ont montré les contradictions. Et donc, étreinte vagabond, c'était vraiment ça, c'était l'idée d'être étreint, contenu par quelque chose, et en même temps ce vagabondage qui est complètement épars, vacuité. Et cette association des deux crée une tension, génère une tension qui fait que il y a quelque chose qui émane de cette tension-là. Il y a un processus qui se met en place et qui fait que l'écriture peut venir de ça. Si vous mettez deux choses consensuelles l'une à côté de l'autre, ben, vous n'avez pas grand-chose à dire. Mais si vous mettez deux termes en contradiction, de suite, ça génère quelque chose de problématique, voilà, et qui vous pose question.
Mais est-ce que c'est pas justement la dualité de l'être humain ? On est tous dans ce schéma-là, non ?
Oui, sauf que on a mis beaucoup de choses en place pour se persuader du contraire. La rationalité, le rationalisme cartésien, enfin toutes ces choses-là sont de superbes garde-fous pour se préserver de la contradiction. Moi qui ai travaillé là-dessus, j'ai bien vu que la plupart du temps, on préférait l'avoir comme quelque chose de menaçant, d'incohérent, au bénéfice de l'harmonie, de ces choses-là. La contradiction, c'est dérangeant.
Alors Bruno, est-ce que vous avez d'autres, un troisième livre en vue ou pas ?
La difficulté, c'est que j'écris quand j'ai un peu de temps en dehors de mon travail, donc c'est pas toujours évident. Pour moi, le plus important actuellement, c'est de continuer à préserver cette envie, ce désir d'écrire. Peu importe que ce soit vendu ou pas, pour moi, c'est continuer à écrire qui compte le plus. Maintenant, j'aurais bien aimé faire un troisième, puisque là, c'est le second. J'aime bien le chiffre 3. Sauf que la poésie, c'est quand même un peu du concentré de tomate. Vous voyez, c'est synthétique. Mmh. Et pour faire un livre qui soit un livre, il faut quand même un certain nombre de pages. Donc, c'est pas évident, quoi, parce que les lignes, on les sort au forceps, hein, des fois. Hein. Voilà. Et donc, la difficulté est là. J'ai un projet de roman ou de nouvelle de science-fiction. Alors le problème là, c'est que j'ai tout en tête. C'est le contraire de la poésie. C'est-à-dire que j'ai le scénario du début à la fin, avec les moments d'intrigue, la chute, etc. Mais il reste juste à l'écrire. C'est un détail, mais un détail qui compte. Et je regardais l'autre jour une interview de Bertrand Blier, réalisateur, qui a eu le même problème pour un film qui s'appelle Beau-père. Il disait j'en ai bavé pour faire ce film parce que j'avais tout le scénario en tête et il fallait remplir à l'intérieur des, et là c'est pareil. Donc ça m'a rassuré en disant bon, ça va, je suis pas le seul dans ce cas-là. Oui. Mais donc du coup
c'est là et ça va peut-être alors, à un moment donné
l'idée, si vous voulez, elle est simple, c'est moi j'ai toujours été passionné par le voyage dans le temps. C'est une impossibilité. Mais
d'un moment d'évasion.
Mais c'est une impossibilité, je dirais, matérielle. Mais quand je veux dire, les souvenirs sont un voyage dans le temps d'une certaine manière. Hein, voilà. Donc l'idée, c'est qu'est-ce que vous vous diriez à vous-même si vous étiez capable de vous voir à plusieurs reprises dans le futur. Voilà. Et qu'est-ce que vous ne vous diriez pas, parce que sachant que ce que vous allez vous dire aura un impact sur votre vous plus jeune. Et vous, futur. Ah oui. Voilà. Donc, à chaque rencontre qu'il a avec lui-même, le personnage principal s'altère. Et donc, du coup, comme c'est un scientifique, il intellectualise beaucoup, il s'organise en disant qu'est-ce qu'on va se dire, qu'est-ce qu'on va pas se dire, etc. Et ça devient. Ah, voilà. Donc, il y a un peu de poésie dedans quand même, parce que je n'ai pas perdu ça de vue non plus.
Alors Bruno, est-ce qu'on trouve facilement votre livre, donc Étreinte vagabonde ? Est-ce qu'on peut le trouver facilement ou il faut le commander ?
Normalement, il est dans pas mal de points de vente, hein, à la FNAC, dans les endroits comme ça. Il y a le site aussi de l'éditeur, hein, 500 éditions, et d'autres, j'ai vu aussi sur Amazon, enfin sur d'autres choses. Mais il faut le commander, voilà. C'est bien de commander directement chez l'éditeur.
Est-ce que vous avez un site, une page Facebook ?
Alors moi j'ai un blog. J'ai un blog qui s'appelle Goloubiev Écriture.
Goloubiev avec deux F.
Avec deux F.
Vous écoutez l'émission Autour du livre avec Annick sur RTVFM.
Merci Bruno Goloubiev pour ce recueil de textes Étreinte vagabonde aux éditions 500. Un livre à lire, à écouter, un voyage à la rêverie, au tout possible, à la quête de sens. Les mots tels que présence, sensibilité, beauté, réflexion, expérience de vie, légèreté, profondeur, humour, authenticité, introspection, conscience prennent tout leur sens dans cet ouvrage. Sans oublier le mot poésie qui vient doucement nous interpeller dans le tourbillon de notre vie. Voilà, cette émission se termine. Bonsoir à vous, chers auditeurs et auditrices. Bonsoir Bruno.
Merci Annick de m'avoir reçu.
Et bon mois d'avril à tous et toutes. Une rediffusion de cette émission le mercredi 26 avril et vous pouvez aussi la retrouver en podcast sur notre site web www.rtvfm.net. Restez avec nous sur Radio Territoire Ventoux 102.2 et bonne fin de soirée.